RMC, face aux grandes gueules.
Marion Maréchal, si tu te sens Le Pen aux éditions Fayard. Bonjour, bonjour. Marion Maréchal. Mais vous avez un chevalier servant.
Oui, qui est-il? Ça m'intéresse.
Il y a une très belle photo de vous avec ce chevalier servant, avec une coupe de champagne à la main.
Chevalier servant, c'est beaucoup dit.
C'est Jordan Bardella, coupe de champagne à la main dans les salons du Plaza Athénée. C'est la grande réconciliation.
Allié politique, indéniablement. Bah écoutez, oui, j'étais heureux. Cette soirée de lancement a été l'occasion de réunir Jordan Bardella, qui m'a fait l'amitié de sa présence, mais également Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti. Donc, à certains égards, le symbole d'une coalition des droites que j'appelle de mes voeux et qui est de bon augure pour la suite des événements et des prochaines échéances électorales.
D'accord. Avec Bardella et bientôt votre tante ou pas alors aussi.
Alors Marine Le Pen devait être présente, elle s'en est excusée publiquement d'ailleurs et elle a eu gentillesse d'avoir un mot amical pour mon livre voilà sur les réseaux sociaux, mais c'était un imprévu. Elle devait être présente en effet.
On va parler de votre livre si tu te sens Le Pen, parce que pour une fois c'est un livre plus personnel. Je dis pour une fois par rapport aux livres politiques que l'on reçoit et qu'on est obligé parfois de lire avec difficulté. Là, au moins, il y a du perso et ça a plu d'ailleurs à certaines grandes gueules. Mais un mot quand même, parce que les chiffres sur l'immigration sont tombés cette semaine. 4,5 millions de titres de séjour en France. Jamais la France n'a accueilli autant d'étrangers sur son territoire. Pour vous, c'est un cauchemar, j'imagine, quand vous avez vu ces chiffres que vous connaissez.
Déjà, je vais vous dire, c'est pas une surprise, hein, parce que cette trajectoire, elle va en s'aggravant depuis maintenant des décennies. Maintenant, c'est un sujet que je considère très grave. Oui, il faut imaginer, si je devais vous donner une image, que c'est l'équivalent de la ville de Paris, Lyon, Toulouse, Marseille en même temps, et en termes de nombre qui correspond au titre de séjour actuellement présent sur le sol français. Et ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est qu'au-delà des incidences culturelles, on va dire, y compris sécuritaires, on a moins parlé ces derniers temps, alors qu'on était en pleine phase budget, des incidences justement économiques. Parce que ce dont on parle moins, c'est que l'immigration a un impact et un surcoût sur de très nombreuses politiques publiques, ce dont le gouvernement n'a pas du tout parlé à l'occasion du débat budgétaire, alors qu'il a même émis lui-même un document dans lequel il évalue ses surcoûts. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Mais par exemple, sur les élèves allophones du premier et du second degré, donc les élèves qui ne maîtrisent pas la langue française et à qui on doit donc donner des cours de français supplémentaires, ça représente 265 millions d'euros par an. C'est quasiment 9000 postes de professeurs. Alors, les aides juridictionnelles à l'égard des étrangers qui, pour une grande partie, sont utilisées justement pour faire des recours contre l'État dans le cas des expulsions, 53 millions d'euros. Chaque nuit en Île-de-France, c'est 52 000 lits qui sont payés pour des migrants, soit plus d'un milliard d'euros par an.
La Cour des comptes avait calculé tout ça et avait dit finalement ça s'équilibrait entre ce que peut rapporter l'immigration et ce que coûte l'immigration. Oui, finalement, la France n'était pas perdante. C'est un rapport de la Cour des comptes.
Il y a un grand débat là-dessus, mais vous savez aussi qu'il y a de très nombreuses études, hein, notamment de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui au contraire fixe le coût de l'immigration en tout cumulé à près de 40 milliards d'euros par an. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça restera, selon moi, le sujet central et décisif des échéances à venir, parce que les implications sont structurelles et qu'on vient d'apprendre, je sais qu'on en a longuement parlé sur votre plateau, que si on continue sur ce chemin, les Français seront bientôt plus pauvres que les Polonais en moyenne, ce qui est quand même un drame. Et donc si on ne traite pas indirectement, y compris ces questions du coût de l'immigration et de l'impact sur les politiques publiques, malheureusement on passera en grande partie à côté du sujet.
Barbara, Bruno, Emmanuel.
Barbara a lu le livre et l'a apprécié, paraît-il.
Oui, je voulais vous dire, ici, en effet, on est souvent amené à lire des livres de politique, qui sont des livres prétextes pour faire des petits plans com, voilà. Pas toujours d'ailleurs écrits par eux-mêmes, ça se sent quand on les lit, c'est pour ça qu'on les lit vite. Vous, il y a à la fois la forme, c'est un style qui est direct, mais qui est élégant et qui fait appel à des références littéraires qui sont des références littéraires dans lesquelles on sent un certain souffle. C'est assez rare et surtout on sent que c'est vous qui l'avez écrit, parce que dans le fond, c'est aussi un livre que j'ai trouvé passionnant, parce que vous éclairez votre parcours personnel, vous racontez notamment, et je pense que c'est pour ça que le titre est très bien choisi.
Si tu te sens Le Pen.
Si tu te sens Le Pen, c'est la fin d'une lettre que votre grand-père vous écrit pour vous lancer, vous pousser à rentrer en politique. Et je trouve que vous expliquez assez bien la particularité de ce clan Le Pen qui a été à la fois confronté à beaucoup d'adversités sans pour autant se victimiser. Vous rappelez ce qu'ont vécu vos tantes enfants, mais aussi pétri de rancœur, de colère, de disputes catastrophiques, mais aussi de capacité à se réconcilier. Donc aussi une histoire familiale qui est intéressante, voilà, et qui est aussi très souvent caricaturée. Donc là, vous donnez votre point de vue et c'est intéressant, mais aussi votre parcours politique. Et je trouve que la façon dont vous racontez votre parcours politique, vos choix, un peu parfois vos errances, parce que vous le reconnaissez, vous avez fait quelques erreurs. Bien, en fait, c'est
lesquelles?
Ben, notamment, je pense le choix de rejoindre Éric Zemmour. Hein, ça a été quand même relativement une erreur. Mais bon. Vous apprenez de vos erreurs, apparemment. Néanmoins, je trouve que cette rigueur.
Vous regrettez d'avoir rejoint Éric Zemmour ?
Non, j'ai pas de regrets. Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que j'en tire un certain nombre de leçons, mais voilà, si je devais le refaire, je le referais, parce qu'au final, j'en ai beaucoup appris.
Mais alors, justement, dans votre livre, vous citez Jean Raspail qui dit que la politique, c'est l'homme face aux événements. Alors, vous, est-ce que vous allez être la femme face aux événements ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette union des droites que vous appelez de vos vœux, qu'apparemment aucun des grands caciques qui se trouvent autour de vous, même quand pour certains ils ont un micro parti, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez, à un moment ou à un autre, décider d'être la femme qui va vraiment réussir cette union des droites en dépit de certains des hommes d'ailleurs qui vous entourent, parce que je ne sais pas si c'est vraiment votre tante qui fait obstacle à cette union des droites, si c'est pas plutôt tous les hommes qui sont autour et qui font obstacle à cette union des droites.
Vous l'avez compris, ça n'est pas un livre de candidature, c'est un livre de vision, de la place d'ailleurs que je souhaite donner à cette vision dans les prochaines échéances, parce que cette vision je la défends depuis près maintenant de 15 ans. C'est évidemment aussi une méthode, parce que je parle de la manière dont je verrais en effet la possibilité d'accéder au pouvoir. Donc c'est aussi ma contribution, si je puis dire, dans le débat public. Et puis aussi, bah, vous l'avez relevé, et je vous remercie pour vos mots, parce que c'est une belle récompense à toutes ces heures de travail. Le point de vue que je peux donner.
C'est vous qui l'avez écrit, ce
livre. De choix que j'ai fait.
Soit, oui.
Bon, je pense que pour ceux qui me connaissent un peu, ils me feront pas le procès de pas l'avoir écrit. Et même si j'ai mis un an et demi à l'écrire, hein, donc évidemment, voilà, les sujets sont très variés, donc j'aborde beaucoup de choses et c'est très dense et on pourra parler de tout aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de faire en sorte, et je l'ai dit à travers le sujet de l'immigration, de faire comprendre aux Français que l'échéance à venir est une échéance historique vitale, déterminante. Et donc moi, mon but dans tout ça, et je pense que c'est ce qui est relevé dans le livre, c'est pas de courir derrière la première place. Voilà. Moi, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, d'être l'une des pièces du puzzle pour demain permettre la victoire. Je continue de penser qu'aujourd'hui, bah, le Rassemblement National est le parti le mieux placé, et donc il est assez naturel, si vous voulez, que du coup, le candidat du Rassemblement National soit le chef de file finalement de cette coalition.
Marine Le Pen, si c'est elle qui est candidate. Ça dépendra aussi de l'issue de son procès, ne veut pas être celle qui porte l'union des droites. Elle l'a dit, je suis ni droite ni gauche.
Après, il y a un débat sur les mots, mais indéniablement dans les actes qui sont posés depuis maintenant des mois et des mois, et notamment à travers le ralliement d'Éric Ciotti, à travers la présence des uns et des autres à ma soirée de lancement, on voit bien que les choses aujourd'hui sont en train de bouger dans le bon sens. Et il me semble d'ailleurs que les LR eux-mêmes vont peut-être être amenés à devoir rendre des comptes sur le choix qu'ils ont fait ces dernières années, c'est-à-dire l'alliance avec le macronisme qui les a conduits à l'impuissance.
Et notamment le fait de ne pas avoir censuré le budget, le Cornus, c'est une faute historique.
Regardez le résultat, ça les a conduits à l'impuissance et au reniement, puisque sur le budget, on voit bien que c'est les socialistes finalement qui ont eu le dernier mot.
Vous montrez bien qu'à l'Europe, vous travaillez de concert avec François-Xavier Bellamy, Bardella et vous.
Et c'est exactement ça. J'essaie de montrer qu'en Europe, on y arrive et donc on doit pouvoir y arriver en France.
On a peu de temps, donc chacun va parler. Bruno Poncet.
Moi, ça va être rapide. Alors, moi, je l'ai lu. Hein. Alors, je ne vous cache pas, ça ne sera pas mon livre de chevet.
Je m'en doute.
On est bien d'accord. Après, moi, ce que j'ai vu dans votre livre, c'est plutôt. L'envie de reprendre le business familial, c'est-à-dire que vous savez que votre tante, malheureusement, pour elle, mais bon, je pense que la justice va faire son travail, et vu ce qui se passe en ce moment au procès, je pense que ça, on va régler le problème rapidement, votre tante ne sera pas, pourra pas se présenter. Je pense pas que vous pensiez que la ligne Bardella soit la vôtre, et j'ai l'impression que vous voulez reprendre le truc en disant, moi ce que j'ai lu de ça, c'est quand votre grand-père vous met un peu au challenge, vas-y, si t'es une Le Pen, vas-y. Ben, j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est que là, vous êtes en train de vous dire, l'union des droites, c'est ce que vous portez. Alors là, effectivement, on peut pas cacher, ça, vous avez toujours porté ce message-là, c'est clair. Moi, c'est à chaque fois que vous venez, je suis quasiment là, chaque fois en face de vous. J'ai l'impression que c'est fait exprès, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense qu'ils essaient de me convertir, mais ça marche pas pour l'instant. Hein. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train d'expliquer que 2027, Bardella passe ou passe pas, mais vous, vous serez là derrière, ce que vous voulez faire. Moi, je pense que vous voulez reprendre un peu ce côté-là de l'échiquier politique, vous voulez le reprendre et parce que à un moment donné, j'ai l'impression que vous voulez reprendre la main derrière votre.
Écoutez, moi, vous avez employé le mot business. Moi, je fais pas de business en politique. Preuve en est d'ailleurs, si j'avais fait du business, j'aurais pas quitté la vie politique comme je l'explique en 2017 pour faire autre chose pendant 5 ans et j'aurais fait
de
le choix.
École que vous avez montée.
Voilà. Et si je faisais
c'était
du business,
quand même,
et si
j'avais pas. D'accord, vous êtes pas parti faire vendre des tomates ou quoi.
J'ai renoncé à me faire réélire député, une élection qui était, je pense, tout le monde me le concédera, quasiment acquise. Et j'ai, comment dire, démissionné de mon mandat de conseiller régional et j'ai fait complètement autre chose pendant 5 ans. Et si je faisais du business, j'aurais pu avoir la facilité de revenir au Rassemblement National, hein, qui était en effet, on va dire, une famille politique assez naturelle. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu être plus en cohérence avec la stratégie à laquelle je croyais et je crois toujours, la coalition des droites et la ligne qui est la mienne. Donc j'ai pas du tout une approche business. De fait, je raconte une histoire parce que moi, je m'inscris dans un héritage politique et familial. Que ça plaise d'ailleurs ou pas. J'explique d'ailleurs dans ce livre comment, en quoi je perpétue cet héritage, en quoi je le réinterprète aussi, et en quoi je le dépasse à certains égards.
Et chez les Le Pen, on pouvait pas penser différemment?
Ah si, absolument. Ah. D'ailleurs, si, preuve en est.
Non, mais je pose la question.
Preuve en est, à certains égards, vous avez jusqu'ici, bon bah, 3 Le Pen qui se sont engagés en politique et 3 versions du lepenisme, oui, si on peut dire ça comme ça. Même s'il y a une ligne directrice.
J'ai pas vu chez les Le Pen une gauchiste. Voilà.
Non, mais il y a une ligne directrice qui est toujours celle, par contre, du patriotisme et de la défense des intérêts de la France.
Il est parti avec Maigret, n'est pas engagé aussi en politique.
Non, mais c'est pour ça que je le raconte dans le livre. Il y a aussi, à travers cette histoire politique, beaucoup de divergences politiques. Il y a des conflits politiques aussi qui ont parfois même divisé jusqu'à ma propre famille. Et je peux vous dire, étant 9 petits enfants, qu'un certain nombre ne sont pas forcément alignés. Donc
c'est les enfants qui
non, il y a aucun impératif. Non, par contre, on est éduqué dans un environnement. C'est évident.
Est-ce qu'il y avait une pression aussi chez vous?
Non, il n'y a pas de pression. Par contre, ce qui est vrai, c'est ce qui ressort de la lettre que je publie de mon grand-père. Mon grand-père nous a toujours enjoint à une forme d'exemplarité en disant mais attendez, on demande à des gens, à des militants d'aller se saigner, de prendre de leur temps bénévolement et à l'époque d'ailleurs, et c'est encore vrai malheureusement dans un certain nombre de territoires, de prendre des risques, parfois physiques, parfois dans leur vie sociale. Vous ne pouvez pas, vous, avec l'éducation que vous avez reçue et le nom que vous portez à certains égards, ne pas montrer l'exemple. Voilà, c'était l'état d'esprit qu'il a.
Et pourquoi ne pas redevenir Marion Maréchal Le Pen?
Excusez-moi, j'ai pardonné.
Pourquoi ne pas être Marion Maréchal Le Pen?
Alors, l'histoire de ce nom, on m'a fait beaucoup de procès là-dessus, je le raconte aussi dans le livre. Moi, j'ai un lien particulier avec le nom Le Pen, puisque l'histoire de ma naissance a voulu que je me suis appelée Marion Le Pen pendant 3 ans avant de m'appeler Marion Maréchal. Donc, j'ai toujours porté les deux noms sur ma pièce d'identité. Lorsque je suis rentrée en politique, même si mon nom civil est Marion Maréchal, j'ai pris le nom Marion Maréchal Le Pen un peu comme un nom de guerre. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai quitté la vie politique.
Maréchal, c'est le nom de l'homme qui vous a élevé.
Qui m'a adopté, absolument, et qui est mon père aujourd'hui, mais qui n'est pas mon géniteur. Pour reprendre ce terme très laid. Voilà. Et donc, la réalité est que, bon, bah, quand j'ai quitté la vie politique, j'ai voulu symboliquement marquer le coup et donc laisser de côté ce nom de guerre. Maintenant, Marion Maréchal s'impose, mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les adversaires politiques régulièrement me disent « Ah, on vous appelle Marion Maréchal Le Pen pour vous mettre mal à l'aise ou essayer de vous gêner aux entournures. » Mais moi, j'assume parfaitement ces deux noms, j'ai pas de difficulté.
Un mot simplement, puisqu'on parle du livre, après Emmanuel, je laisse, mais il y a un moment important dans votre vie que vous avez vécu, c'est ce fameux accident de voiture avec votre mari. Et vous en parlez, pourquoi c'était si important? Au-delà du fait que vous auriez pu y laisser la vie.
Il y a plusieurs événements en fait qui ont percuté ce livre et qui ont contribué à le façonner, si je peux dire. Le premier, bon, bah, c'est la sortie des élections européennes qui ont été une élection exigeante et compliquée pour moi. Hein, la première en tant que tête de liste nationale, avec la rupture douloureuse avec Éric Zemmour, sur laquelle je reviens. Deuxième événement, c'est la dissolution, avec l'espoir immense d'une victoire de la coalition nationale et puis un échec qui appelle quand même à une réflexion, une remise en question. La mort de Jean-Marie Le Pen, avec lui toute une époque, malgré tout. Et puis l'inéligibilité de Marine et l'inquiétude de toute une famille qui s'est battue depuis des années derrière elle. Et c'est vrai, cet accident qui, en fait, a été un moment de maturité personnelle. C'est-à-dire que j'essaye de raconter quand on voit la mort en face, littéralement, et qu'on y échappe, par chance. C'est vrai qu'on ajoute de pas tant de jours à la vie que de la vie au jour, quoi. Et en fait, ça décuple en fait son envie de donner du sens au quotidien, à son engagement et de faire le maximum tant qu'on en a encore la force.
C'est quel encore l'accident ou pas?
Je me traîne quelques petites douleurs et j'ai eu des côtes cassées et voilà. Donc, mais je m'en sors très très bien, objectivement.
Alors, Emmanuel. Moi, je dirais très brièvement que c'est un livre remarquable et important. J'engage tous les gens qui s'intéressent à la politique, quel que soit leur bord, à acheter et lire ce livre parce qu'il y a un contenu politique, un contenu de réflexion, un éclairage intime qui est tout à fait remarquable. Je dirais, pour le résumer en quelques mots, sensibilité et esprit de vérité, aussi une catharsis personnelle et politique, car compte tenu de votre parcours avec votre adoption, etc., vous exprimez publiquement beaucoup de choses qui vous font plaisir de rendre public. Et puis, au plan personnel, votre culture de l'adversité, au plan politique, évidemment, la saga Le Pen, avec votre prisme qui est complémentaire, qui est assez inédit. Vous êtes pour l'union des droites, c'est votre cheval de bataille, mais vous rappelez qu'il y a 10 ans, presque jour pour jour, votre tante Marine Le Pen avait proclamé mot pour mot, nous, on n'est pas de droite, on est le camp national. Alors moi, une simple question, un peu polémique quand même, compte tenu de notre émission.
Je vous pardonne, vu la présentation. À
Marine Le Pen a-t-elle eu raison de vendre le Front National en viager à Monsieur Bardella ?
Oui. En effet, c'est polémique parce que le parti n'a en aucun cas été vendu puisque Jordan Bardella a été élu à la tête du mouvement par la voix des adhérents et d'ailleurs très largement élu. Donc je crois que là, pour le coup, on est face à un choix qui est un choix démocratique. Et vous accorderez quand même quelque chose à Marine Le Pen. Moi, je me cache pas d'ailleurs dans le livre des différences idéologiques ou stratégiques que je peux avoir avec elle, mais accordez-lui quand même quelque chose, quand même peu de responsables politiques qui assurent leur succession comme l'a assuré Marine Le Pen. En général, les chefs politiques, ils ont plutôt tendance à couper la tête de tous ceux qui arrivent derrière. En cela, on peut quand même lui accorder qu'elle a une certaine hauteur de vue.
Oui, mais ce qui est assez effarant, et on n'a jamais vécu ça dans la vie politique française, c'est qu'on a deux candidats qui pourraient être les deux favoris de la présidentielle, si on regarde les sondages, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. On ne sait pas lequel finira par l'être. On attend une décision de justice. Est-ce que c'est les mêmes pour vous, ou quand même, il y en a une ou un qui a plus de chances d'être élu?
Bah écoutez, moi, alors je vous parle, évidemment que je souhaite que Marine Le Pen puisse être candidate. C'est la réponse d'ailleurs bien légitime que fait Jordan Bardella. Je ne suis pas maître de la décision finale. J'espère que les juges là-dessus laisseront le choix aux Français de pouvoir choisir le candidat qui leur sied. Maintenant, j'ai envie de vous dire, quelle que soit l'issue finale, de toute façon, on fera tous la campagne ensemble. Je l'ai dit assez naturellement,
donc, si
derrière
c'est Jordan
parti leader
qui se présente, ça sera votre candidat.
Et donc, le sujet maintenant est de savoir quelle équipe autour de Jordan Bardella, quelle équipe la plus large possible. Vous savez, moi, voilà ce que
il a
que j'en pense
pour être président
sur
de la
le
République,
sujet.
Franchement,
écoutez, il y a beaucoup d'interrogations sur son âge, son manque d'expérience.
Dans votre livre, vous soulignez justement la question de, et vous évoquez vous-même l'idée qu'il faut avoir un certain âge pour accéder aux plus hautes fonctions.
Oui, bien sûr. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il y a évidemment des exceptions et qu'il y a des gens dont le talent n'attend pas le nombre des années. Indéniablement, Jordan Bardella fait comment dire, preuve d'une précocité indéniable et puis d'une volonté. Le tout maintenant étant en effet au-delà de lui et du candidat. Et ça vaudrait
pour être président
et ça vaudrait
de la République.
Marine Le Pen.
Est-ce qu'il a l'étoffe pour être président de la République?
Oui, je le pense. Mais pour cela, il faut se donner les moyens, une fois de plus, d'avoir une équipe qui est aussi à ses côtés, la plus complémentaire et la plus large possible. Mais ça va au-delà de moi, j'ai envie de vous dire.
Oui, mais
vous
c'est
savez,
Jordan Bardella,
moi, je plaide...
aussi qui a empêché que vous reveniez au Rassemblement National, qui a empêché que votre ligne puisse s'exprimer au Rassemblement National. Marine Le Pen était d'accord pour que vous reveniez l'exprimer.
Évidemment qu'il y a eu des incompréhensions. Évidemment que la vie politique est faite de fractures et d'oppositions et de ruptures. Voilà, je vais vous dire, moi j'ai eu des moments très compliqués avec Éric Zemmour. Ça m'empêche pas aujourd'hui de dire que demain il faudrait aussi trouver un chemin pour pouvoir travailler avec Reconquête. Vous l'avez relevé, Barbara Lefebvre, et à juste titre, au Parlement européen nous y arrivons avec des résultats très concrets pour la défense des intérêts français. Par pitié, que nous tirions exemple de ça et que nous arrivions à le faire au niveau national. La situation est trop urgente.
Une dernière question. Vous avez une concurrente?
Oui, dites-moi, j'en ai beaucoup, mais...
Non, mais une qui est un peu même votre profil, votre âge, Sarah Knafo.
Oui, est-ce que c'est une concurrente? Voilà, je le prendrai pas comme ça. Aujourd'hui, Sarah Knafo fait un chemin à Paris. Personne lui enlèvera d'ailleurs son dynamisme. Hein. Maintenant, moi, il y a une chose qui m'interroge sur son choix stratégique à Paris, c'est d'expliquer, puisqu'elle l'a laissé sous-entendre assez clairement, que si jamais elle était qualifiée au second tour, elle pourrait se désister pour Rachida Dati, puisque Rachida Dati ne veut pas de fusion, ça a été dit très clairement, avec elle. Moi, je vous le dis très franchement, hein, je n'ai pas confiance en Rachida Dati seule, alliée au macronisme, parce que c'est ce qui va se passer, pour garantir une politique de droite à Paris. Je vois ce qu'elle fait, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas au ministre de la Culture, je vois son bilan en tant que garde des Sceaux, donc j'ai envie de vous dire... C'est pour ça que d'ailleurs je pousse aujourd'hui et je soutiens Thierry Mariani, parce que je considère qu'il faut au contraire que le camp national rentre au Conseil de Paris pour être l'empêcheur de tourner en rond, pour être le faiseur de roi et forcer Rachida Dati à avoir la garantie d'un groupe qui l'obligera à avoir une vraie politique de droite.
Merci Marion Maréchal. Merci. Si tu te sens Le Pen aux éditions Fayard, merci d'avoir été avec nous.